France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Michel Zonner. J'ai lu Pleurer au supermarché l'année dernière et c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée. J'ai pu m'identifier à plusieurs épisodes et j'ai beaucoup aimé la manière dont vous aviez raconté tous ces événements, avec respect, avec pudeur, mais quand même avec franchise.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
De chaudes larmes, de chagrin versés au supermarché aujourd'hui dans votre book club parce qu'il suffit de voir un grand bocal d'ail égoussé dans un rayon de magasin de nourriture asiatique pour convoquer le souvenir intact de la cuisine d'une maman morte. Pleurer au supermarché, c'est le titre français du roman de Michel Zonner, immense succès de librairie. Il paraît en édition poche chez Bourgois. L'occasion d'évoquer ce texte sur l'amour filial, le cancer, les soins palliatifs, la Corée ou encore la nourriture, évidemment. Michel Zonner est de passage en France, elle est notre invitée. Vers 15h50, comme chaque jeudi, c'est Lectures sans frontières avec la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, direction l'Afrique du Sud où un jeune auteur prodige disparu prématurément laisse une œuvre prolifique derrière lui. Et en fin d'émission, nous jouons ensemble au grand jeu des pages musicales, à chercher trouver de la musique dans les livres. Il y en a plein dans celui de notre invitée. On est ensemble pendant une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Michel Zonner.
Hello.
Votre livre Pleurer au supermarché dans son titre français paraît dans une traduction française de Laura Bourgeois aux éditions Bourgois Poche. Soyez le bienvenu dans la bienvenue dans le Book Club de France Culture. On est ravis de vous recevoir. Et bonjour Marguerite Capelle.
Bonjour.
Vous serez l'interprète de cette conversation. Merci beaucoup d'être avec nous. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. On fait le portrait de nos invités en tant que ce sont des lectrices et des lecteurs, avant tout. Vous écrivez dans votre livre, Michel Zonner, dont on va bientôt tout à l'heure détailler la dimension évidemment autobiographique, vous écrivez qu'on ne vous a pas filé une vieille édition de Salinger en vous disant « il faut absolument que tu lises l'attrape-cœur », on ne vous a pas remis dans les mains un vieux vinyle des Rolling Stones, on ne vous a pas, comme ça, fait rêvasser devant de grands rayonnages de bibliothèques, mais on vous a donné plein d'autres choses. Alors, est-ce que vous savez, vous, quand est-ce qu'a commencé votre propre aventure personnelle avec la lecture?
J'ai
commencé à lire différemment une fois à l'université. Aucun de mes parents n'était allé à la fac. Ma mère arrivait de Corée et c'est principalement elle qui m'a élevée. Donc je ne pense pas avoir vraiment développé mes goûts de lectrice avant d'avoir une formidable prof à Bryn Mawr College, qui est également romancière et qui m'a fait découvrir toutes sortes de textes dans lesquels je me reconnaissais enfin.
Et avant ça, la lecture vous ennuyait? Vous n'aviez pas de rapport avec les livres?
Je ne sais pas, je pense que j'aimais beaucoup l'idée de lire, mais je ne me rappelle pas avoir été exposée à des textes qui m'auraient émue de la façon dont ils ont pu le faire après, à partir de l'université.
Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire?
C'est drôle parce qu'en fait, la personne qui m'a appris à lire, c'était principalement quelqu'un pour qui l'anglais était une deuxième langue. Heureusement, ça n'a pas eu d'impact sur mon accent, mais peut-être sur des expressions ou en tout cas des choses qui se présentaient à moi. Je me souviens en tout cas que ma mère m'a vraiment inculqué l'idée que lire était très important. Et petite, j'ai écrit aussi, tenu un journal sur son conseil. Je me souviens de la série des Dr. Seuss et de la littérature enfantine classique. Mais je ne me souviens pas avoir été vraiment émue par la littérature avant la fac.
Alors justement, vous parlez de ce changement de votre rapport à la lecture, arrivé à la faculté, Michel Zonner. Qu'est-ce que vous lisez à ce moment-là et qu'est-ce que ça vous fait de si important pour en faire une date butoir?
J'ai été très émue par Philip Ross, par Richard Ford, par Marilyn Robinson ou Jemba Lahiri.
I think because I
Sans doute parce que je suis arrivée tardivement à la lecture. Donc il y a un style d'écriture qui était peut-être plus associé aux classes populaires plutôt qu'à une littérature entre guillemets plus bourgeoise ou plus noble.
Puisque Philip Roth est le premier auteur que vous citez, Michel Zoner, qu'est-ce que vous aimez dans ces textes-là ?
Je crois que j'ai toujours été très touchée par les auteurs qui explorent des activités ordinaires. C'est assez injuste de dire ça de Philip Roth en réalité, mais je crois que ce qui me touche le plus, c'est la littérature du quotidien qui trouve l'extraordinaire et l'émotion dans la vraie vie et dans les rapports humains.
Est-ce qu'il y a des moments de votre vie, après la fac, où vous n'avez plus lu, des périodes où vraiment la lecture n'avait plus de place dans votre vie ?
Très franchement, l'année dernière, la lecture n'a pas eu beaucoup de place dans ma vie. J'ai passé toute l'année passée à Séoul et j'ai refusé de lire quoi que ce soit en anglais. Je ne voulais pas non plus écouter ou regarder des programmes en anglais. Et donc, je n'ai pas beaucoup lu l'année dernière. Et quand je suis très occupée, parfois, c'est difficile de lire.
Vous mentionnez cette année passée à Séoul aussi pour vous rapprocher à la fois de la famille coréenne, Michel Zoner, mais de cette langue-là. De cet apprentissage nouveau, comme si vous repreniez quelque chose depuis le début, ça veut dire que vous avez réappris à lire ou appris à lire en coréen ?
Peut-être que ma seule compétence en arrivant en Corée, c'est que je savais lire et je savais écrire le coréen. Je pouvais prononcer les mots sans savoir forcément tout ce qui se disait. Mais malheureusement, je croyais savoir plus que ce que je connaissais en réalité. Donc ça a été une année un peu difficile. Mais ça a été un moment qui a eu énormément de sens, qui était très important pour moi et d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas forcément.
Par exemple, vous avez découvert de la poésie ou de la littérature coréenne. Est-ce que ça a été aussi une possibilité pour vous de découvrir de nouveaux livres et de nouveaux auteurs, autrices ?
En toute franchise, je ne suis pas encore au niveau où je peux vraiment lire quelque chose de plus sophistiqué que des contes de fées ou des manuels scolaires. Je crois que ce que j'ai lu de plus difficile, c'est mon ami Li Long qui a écrit justement un livre sur sa vie à Paris de musicienne pauvre pendant un an. Elle a beaucoup parlé de ce moment de glaneuse, presque glaneuse urbaine qui se nourrissait de résidus trouvés sur les marchés, de produits récupérés, collectés. Et elle écrit comme elle parle. C'est un style très oral. Je l'ai lu très lentement et c'est sans doute ce que j'ai lu de plus complexe en coréen. Mon mari, qui a vécu à Paris 6 mois, n'arrêtait pas de me dire, mais une fois que tu apprends à lire, tu vas voir, ça accélère ton apprentissage de la langue. Pour lui, ça a été extrêmement important dans l'apprentissage du français. Et donc j'ai vraiment hâte de lire en coréen, mais ça me paraît encore un petit peu au-dessus de mes forces.
Il y a un autre champ de votre production artistique, et on va s'en rendre compte dans un instant, Michel Zoner, c'est votre qualité de musicienne. Vous écrivez, vous composez, vous écrivez pour les chansons, pour la musique, dans un groupe qui s'appelle Japanese Breakfast. Est-ce que vous êtes sensible à cette autre forme de littérature que sont les chansons groupes, les chansons de chanteurs ou chanteuses que vous avez découvert ? Comme des textes, en fait, comme d'autres formes de textes.
Oui, en particulier, quand on parle de musique, la musique ne m'émeut pas s'il n'y a pas un certain sens aux paroles. Et je pense que la littérature inspire ma musique.
Et enfin, dernière question de ce questionnaire lecture, Michel Zoner. Je disais tout à l'heure que votre livre « Pleurer au supermarché » a rencontré un immense succès en librairie. Vous avez donc aussi peut-être rencontré des lectrices et des lecteurs. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre un peu particulière qui serait des lecteurs, des lectrices par centaines de milliers ?
C'est le plus grand honneur qui soit. C'est un livre tellement personnel. J'ai l'impression d'avoir accompli une sorte de devoir de piété filiale en rendant hommage à ma mère. Et c'est très beau, je ne l'imaginais pas, je ne pensais pas vraiment à ceux qui le liraient. C'est un livre que j'ai écrit pour moi et pour ma mère. Et donc savoir que ça a touché autant de gens, que ça a aidé autant de gens, c'est quelque chose d'extrêmement fort. J'étais à Cincinnati la semaine dernière pour une lecture dans une bibliothèque et une femme est arrivée, elle avait eu 7 enfants avec un Coréen mort depuis 2 ans, depuis quelques années. Et elle et ses enfants avaient lu mon livre et elle disait que ça les avait énormément aidés parce que ses enfants aussi ont perdu le lien avec la Corée en perdant leur père et c'était quelque chose d'assez incroyable à entendre. Et j'ai eu beaucoup de gens aussi qui avaient des relations complexes avec leur mère, tumultueuses, qui ont trouvé l'envie peut-être de les appeler, de partager un repas avec elles. Et je crois que c'était mon objectif principal, que les gens qui avaient des relations peut-être compliquées avec leurs parents puissent se reconnaître dans ce livre et en le lisant et trouver une forme de guérison là-dedans. Ou peut-être aussi les gens qui ont perdu des proches et qu'ils se sentent moins seuls.
On va parler de ce livre juste après cette chanson, une chanson donc de votre groupe Japanese Breakfast qui s'appelle Orlando in Love.
Orlando in Love, Ride 69 cantos for melancholy brunettes and sad women.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est en cuisine que ma mère exprimait son amour. Sous ses airs insensibles et ses critiques, malgré la pression de ses attentes irréalistes, sa tendresse irradiait des pique-niques qu'elle me préparait pour l'école et des plats qu'elle concoctait exactement comme je les aimais. Je parle à peine coréen, mais dans les rayons de chez H-Mart, j'ai l'impression d'être bilingue. Je caresse les melons et les radis en prononçant leurs noms à voix haute. Chame, Danmuji. Je remplis mon caddie de tous les snacks aux paquets colorés et brillants décorés de cartoons familiers. Mon deuil m'engloutit par vagues que vient souvent déclencher quelque chose de banal.
C'est donc dans les rayons d'un supermarché que nous vous rencontrons en tant que narratrice, Michèle Zoner, dans ce texte qui évoque la perte de votre mère et la place qu'occupa et occupe encore la cuisine dans ce lien. Le texte est paru il y a déjà 4 ans aux États-Unis. On parle 1 million de lecteurs conquis et de lectrices conquises depuis. Il paraît en poche ces jours-ci et en français aux éditions Bourgois. C'est la raison de votre présence ici au Book Club, on est ravis. Cette scène inaugurale de lecture pour nous et de rencontre, donc vous êtes... Vous, votre double de narration, sont dans un supermarché de nourriture asiatique et vous êtes comme surprise par les larmes, surprise par le chagrin. Est-ce que c'est aussi ce genre de scène qui a déclenché le texte, Michèle Zoner ? Oui, en fait.
C'était sans doute mon deuxième Noël sans ma mère.
Bucks County, outside of Philadelphia.
J'étais dans les environs de Philadelphie et je rendais visite à ma belle famille. Et pendant ces périodes de fête, on peut ressentir particulièrement fort le manque des proches qui ne sont plus là. Et j'ai eu cette espèce de désir bizarre d'aller dans un supermarché coréen. J'avais l'impression que ça me rapprocherait de ma mère, dans un endroit où les gens parlaient sa langue, mangeaient la même chose qu'elle, avaient la même odeur. Et je me suis dit que c'était un titre à la fois très drôle et très triste et aussi très normal. J'ai su très tôt que ce serait le titre du livre.
Mais ça vous a mis en écriture, cette émotion-là que vous avez rencontrée au supermarché, ça a déclenché le travail d'écriture ou vous aviez déjà en tête, Michèle Zoner, l'idée d'écrire un texte sur la perte de votre mère ?
Je crois que ce moment a été tellement bizarre et un peu comique, en fait. À l'époque, j'avais un travail à plein temps. Et j'étais très peu satisfaite sur le plan artistique. J'avais écrit, composé un album sur ce deuil. Et en même temps, j'avais le sentiment que ça ne suffisait pas à exprimer ce que j'avais vécu. J'ai découvert que ma mère était malade et 6 mois plus tard, elle n'était plus là. Ça a été un moment extrêmement traumatique et j'avais vraiment du mal à comprendre tout ce qui s'était passé. Et même si je suis quelqu'un d'assez extraverti, d'un seul coup, ça devenait difficile de communiquer avec les gens de mon âge sur ce qui m'était arrivé. J'avais l'impression que personne ne pourrait comprendre ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, à moins de l'écrire dans une forme plus longue que des paroles de chansons. Donc au début, ça a commencé par une histoire un petit peu mignonne d'une vlogueuse culinaire. Que je suivais pour apprendre à cuisiner. Et donc j'ai écrit un texte sur cette rencontre et puis je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus profond et aussi qu'il y avait des choses plus sombres qu'il fallait que j'exhume et que j'exprime.
Vous parlez de ce double aspect du titre « Pleurer au supermarché » comme quelque chose de, oui, en effet, très émouvant, dramatique, mais aussi de drôle. C'est exactement l'expérience que j'ai fait en vous lisant, Michèle Zoner. C'est que malgré... Le caractère extrêmement difficile que traversent tous les personnages, je veux dire la maladie de votre mère, elle découvre qu'elle a un cancer et vous l'annonce alors qu'elle a, entre guillemets, juste mal au ventre, la manière dont petit à petit son corps se délite, dont vous la voyez comme ça s'éloigner sous vos yeux, mais il y a quelque chose dans votre écriture où vous réussissez à avoir des mots d'esprit, à avoir un sens de l'humour, à intégrer une sorte de malice, comme de légèreté, quoi. Comment l'avez-vous trouvé, puisque vous dites que vous étiez complètement traumatisée. Comment avez-vous trouvé ce twist dans l'écriture ?
Je crois que c'est tout simplement ma façon de parler, de communiquer. Je crois que personne ne veut être en permanence dans le traumatisme pur. Donc si j'avais raconté cette histoire ou quand j'en parlais autour d'un verre ou au déjeuner, je pense que c'était de cette façon-là. Je crois que j'ai fait tout simplement confiance à ma voix naturelle. C'est la seule que je connais et puis peut-être ça vient aussi de ce que j'ai pu lire.
Justement, vous parlez de trouver une voie naturelle, et ça aussi c'est frappant quand on commence le livre, c'est-à-dire qu'elle nous tient, cette voie-là, qui est à la fois la vôtre et on n'imagine pas tout à fait la vôtre, une voie d'écriture, Michel Zonard, elle nous tient si bien que, voilà, moi j'ai lu le livre d'une seule traite et j'avais l'impression que quelqu'un me racontait, ça n'ôte en rien la qualité littéraire de ce que vous racontiez, mais cette voie-là, vous l'avez trouvée comment? Est-ce que vous l'avez trouvée tout de suite?
Yeah, I mean, I don't think I was too concerned.
Oui, je crois que je ne me suis pas trop inquiétée de définir ma voix.
Maybe some of that comes from my work
as a musician. Ça me vient peut-être aussi de mon travail de musicienne.
I feel very comfortable with the things that I.
Je suis très à l'aise avec les choses qui me touchent et j'ai tendance à me fier à ces sentiments.
Of George Saunders, what he
je
says
pense toujours à George Saunders quand il parle de l'écriture. Process, il dit que quand on révise le texte, il y a parfois un feu vert ou un feu rouge qui s'allume en fonction de ce qui sonne juste, ce qui paraît intemporel, ce qui continue à fonctionner pour vous à la relecture. Mais je crois que ça vient aussi beaucoup de l'immédiateté, de l'urgence que j'ai ressentie, l'envie d'écrire cette histoire. Il y a quelque chose de formidable quand on écrit une autobiographie, c'est que ça prend du temps. Et ça donne beaucoup d'espace, beaucoup de temps pour relire, une fois qu'il était aussi entre les mains de mon éditeur, pour réécrire. Donc il y a à la fois une urgence dans l'écriture et une rapidité, et en même temps aussi un temps de recul. Pour justement essayer de voir ce qui continue à avoir du sens après des mois de révision.
Vous parliez tout à l'heure de votre rencontre avec les nombreux lecteurs et les nombreuses lectrices de votre texte, Michel Zonard. C'est aussi parce que le texte en lui-même touche à des motifs universels, la perte des êtres chers, les relations filiales, le rapport au deuil, le rapport à la mort, mais aussi le rapport à la mémoire. Votre texte a une façon de parler des mécanismes de la mémoire et de l'oubli. On va écouter un premier extrait.
Ma mère est morte le 18 octobre 2014, une date que j'oublie à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi exactement, si par déni je refuse de m'en souvenir ou si, au vu de tout ce que nous avons enduré, le jour précis semble finalement insignifiant. Elle avait 56 ans, j'en avais 25. Un âge qui, d'après ce qu'elle me répétait depuis des années, promettait d'être mémorable. C'est à cet âge qu'elle a rencontré mon père. L'âge de leur mariage, l'âge où elle a quitté sa terre natale, sa mère, ses deux sœurs, pour ouvrir un chapitre charnière de sa vie d'adulte. L'âge où elle a fondé la famille qui allait la définir. Pour moi, ce devait être l'âge où tout était censé s'arranger. L'année de mes 20 ans est celle où sa vie a pris fin, et la mienne s'est effondrée. Parfois, je culpabilise d'hésiter encore sur cette date. Quand l'automne arrive, je remonte le fil de la pellicule de mon téléphone pour retrouver les photos de sa tombe et confirmer les chiffres gravés derrière les bouquets multicolores que j'y dépose depuis 5 ans. Ou bien, je me résous à googler la nécrologie que j'ai oublié d'écrire moi-même, afin de me préparer obstinément à invoquer cette émotion qui n'est jamais tout à fait celle que je suis censée ressentir.
Un extrait de votre texte, Michel Zonard, Pleurer au supermarché, dans la traduction vers le français de Laura Bourgeois. On entend, on vous entend hésiter sur la mort de votre propre mère, en tout cas sa date. On vous entend dire que vous ne vous souvenez pas, puis que vous vous souvenez. Il y a quelque chose dans le texte aussi où on voit comment les souvenirs concrètement peuvent revenir dans le corps, revenir à l'esprit. Comment ça s'est passé pendant l'écriture? Comment est-ce que vous avez justement, est-ce que vous vous êtes laissé retraverser par des souvenirs? Est-ce que vous avez organisé la mémoire? Est-ce que vous avez été surprise par ce qui revenait? Comment vous avez travaillé cette matière-là?
Oui, ça m'est revenu par fragments. Il y a des choses dans votre vie qui vous restent en permanence. Et puis il y a des choses qui vous surprennent parfois. Et j'ai travaillé 5 ans sur ce projet. Et je me souviens d'avoir regardé Le Diable s'habille en Prada et Meryl Streep porte des grosses lunettes et j'avais complètement oublié que ma mère portait toujours ce genre de lunettes de soleil. Mais je travaillais sans doute déjà depuis 3 ans sur le livre à ce moment-là. Et donc c'est un détail qu'on empoche, qu'on met de côté et puis qu'on essaie de trouver un endroit où on peut l'insérer, un endroit où ça aura du sens. J'ai reçu une critique de la part de mon éditeur, quelque chose dont je savais que ce serait compliqué. C'était comment aborder la relation avec mon père, comment ramener davantage de bons souvenirs de lui. Et je crois que j'étais en tournée à ce moment-là et mon batteur a jeté un trognon de pomme par ma fenêtre en me disant « c'est biodégradable ». Et c'est un mot que j'avais appris de mon père quand j'étais toute petite et qu'il jetait ses graines de tournesol de la terrasse et que ça agaçait énormément ma mère. Et moi, je trouvais ça très mignon. Donc, c'est ce genre de moments qui, parfois, arrivent au moment où on s'ouvre à eux, et alors que d'autres sont restés gravés à jamais. Je pense aussi que le thème de la nourriture m'a presque aidé aussi à faire une forme de curation des souvenirs, à les trier. Et j'avais cette idée de m'appuyer sur la cuisine pour ancrer certains moments dans des époques précises.
On va y venir justement à la manière dont vous êtes tenu par la nourriture à cette mémoire et à ce lien avec votre mère, Michel Zoner. Mais encore un instant sur la question de la mémoire. Est-ce que vous étiez, vous parliez tout à l'heure d'urgence, de nécessité d'écriture. Est-ce que vous étiez préoccupé par l'idée de garder à l'écrit des traces de votre mère? Est-ce qu'en écrivant ce livre, c'était aussi ce geste-là?
Oui, j'en parle dans le livre. Je crois que j'étais un peu angoissée à l'idée d'être la seule trace laissée par ma mère, quelque part la seule chose qu'elle laissait derrière elle, parce que j'étais fille unique et qu'elle était mère au foyer et que son métier, son rôle principal était d'être mère au foyer. J'avais l'impression presque de l'avoir volé, de lui avoir volé sa vie, alors que justement, moi, je suis artiste et c'est très important pour moi ce travail-là dans ma vie, dans la place que j'occupe. Et donc, j'avais un sentiment de devoir vis-à-vis d'elle, de lui rendre hommage et de conserver sa mémoire. Et puis, c'est aussi parce qu'on avait cette relation très compliquée. En tout cas, de l'extérieur, j'avais le sentiment que les gens ne comprenaient peut-être pas bien notre amour et mon sentiment de deuil. Donc, je crois qu'il y avait peut-être aussi l'envie de prouver qu'en réalité, on s'aimait beaucoup, même si cet amour était très complexe.
Vous le disiez, Michel Zoner, la place de la nourriture est essentielle dans ce texte, dès le titre, Pleurer au supermarché. On écoute un second extrait.
Ma mère avait sa propre manière de préparer nos retrouvailles, en faisant mariner un plat de côte pendant 2 jours. Elle remplissait le frigo de mes banchan préférés, achetait mon kimchi de radis plusieurs semaines en amont, et le sortait du frigo 1 jour avant pour qu'il soit parfaitement affiné et salé à mon arrivée. Les côtes de porc, marinées dans l'huile de sésame, le sirop de sucre, le soda, puis caramélisées à la poêle, imprégnaient la cuisine d'un alléchant parfum fumé. Ma mère rinçait des feuilles fraîches, de laitue rouge, et les posait sur la table basse en verre devant moi, puis apportait les banchan. Des œufs durs marinés dans la sauce soja et coupés en deux, des haricots mango croquants, assaisonnés d'oignons verts et d'huile de sésame, un doenjang jingae avec un supplément de bouillon et du chongjak kimchi fermenté à la perfection.
Aviez-vous conscience, Michel Zoner, avant la mort de votre mère, de la place qu'occupait la nourriture dans votre amour et dans votre manière d'être ensemble?
Je pense que ce qui m'a vraiment brisé le cœur et qui est lié au moment précis où j'ai perdu ma mère, c'est-à-dire à l'âge de 25 ans, c'est que justement, j'étais à peine en train de devenir une véritable adulte et qu'on commençait à pouvoir avoir un lien d'amitié. Je commençais à la comprendre et je crois qu'on commençait à se comprendre l'une l'autre. Je crois que je commençais tout juste, ça avait commencé à l'université, à vraiment prendre conscience de tout ce travail invisible qu'une mère fait pour vous. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre comment ma mère m'aimait et que cet amour était différent de celui des mères de mes camarades.
Et il y a quelque chose d'important aussi dans la façon dont vous comprenez cet amour, c'est que par ce texte-là, Michel Zonner, vous revenez sur sa propre perte à elle, vous revenez sur le moment où elle a perdu sa mère, vous revenez sur le chagrin qu'elle a ressenti et comment vous regardiez ce chagrin à l'époque, comme si c'était une sorte de répétition de ce que vous alliez vivre. Et d'ailleurs, elle prononcera ces mots-là, Uma, Uma. Il y a vraiment une sorte de parallèle que vous faites dans l'écriture entre ces deux pertes-là. Est-ce que vous diriez que elle vous a comme préparé à la perdre en vous parlant de la perte de sa propre mère?
She was always saying to me,
elle me disait sans cesse, c'est fou, qu'il fallait économiser mes larmes et les garder pour le jour où je perdrais ma mère. Et je trouvais ça extrêmement cruel, ça m'énervait. C'était complètement incompréhensible pour moi. Je n'ai jamais entendu les mères de mes copines dire ça. C'est seulement plus tard que j'ai appris de ma tante que c'était leur mère qui leur disait ça et que elles détestaient et que c'était quelque chose dont elles avaient hérité. Je pense qu'elle ne savait pas, bien sûr, elle n'aurait pas pu savoir. Elle était d'ailleurs en bonne santé, c'était quelqu'un de très dynamique, qui prenait grand soin de sa personne. C'était vraiment la reine du soin de soi avant que cette maladie frappe. Donc c'est pour ça que ça a été un tel choc quand elle est devenue très malade et qu'elle est morte si vite. Et ça a été le cas pour elle comme pour nous, ce choc. Je ne suis pas sûre qu'elle était prête à ça. Je me souviens d'avoir assisté au moment où elle perdait sa mère et j'étais sans doute très naïve. Je n'arrivais pas à saisir que cette femme était la mère de ma mère et je n'arrivais pas à imaginer ce que ça signifiait pour elle. À l'époque, j'avais très peur de ma grand-mère, qui était une femme très rude, qui fumait des cigarettes à la chaîne, qui était toujours vêtue de vêtements râpeux et qui avait une voix râpeuse, qui ne souriait jamais. Elle n'était pas sympa avec moi et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère était si triste. C'est surtout quand ma mère est morte que je me suis souvenue vraiment très distinctement du son de ses propres pleurs. Je n'avais jamais entendu pleurer aussi violemment et c'est quelque chose que j'entends encore aujourd'hui, mais le lien ne s'est fait que quand je l'ai perdu avec ce qu'elle avait pu ressentir à l'époque.
Vous parlez de la comparaison que vous faisiez entre votre propre mère et la mère de vos camarades. Michel Zonner, ce texte, c'est aussi le texte d'une jeune femme qui comprend, qui affine sa compréhension d'avoir grandi avec une femme coréenne, avec une mère coréenne, dans une famille avec deux territoires, deux origines. Il y a aussi ça qui se passe dans le texte et qui parle des États-Unis comme une terre d'immigration. Qu'est-ce qu'il y avait de si différent dans votre façon d'être fille de votre mère et dans la façon de votre mère d'être votre mère? Qu'est-ce qui était si différent et qui avait à voir avec le fait qu'elle soit coréenne?
Je pense
que ce sont des règles tout simplement qui sont courantes en Corée. Maintenant que j'y ai passé toute l'année dernière, ce sont des choses que j'identifie vraiment, je vois d'où ça vient. À l'époque, je ne comprenais même pas qu'il y avait des différences culturelles. Je pensais juste que ma mère était particulièrement méchante, qu'elle avait ses propres façons de l'être. Mais ce sont des choses toutes simples. Par exemple, quand on offre un cadeau de Noël ou d'anniversaire à sa mère, la réaction immédiate c'est qu'elles s'en plaignent au lieu d'exprimer leur gratitude. La plupart de mes amis, quand leurs enfants leur font un petit cadeau, même quelque chose de complètement inutile, leur fabriquent quelque chose, font au moins semblant d'être contentes. Mais ma mère me tensait toujours parce que j'avais gaspillé de l'argent et ça me faisait de la peine. Maintenant que j'ai des amis coréens et coréennes, je me rends compte que ce sont des choses qu'ils ont entendu de leur mère en grandissant. Elle critiquait aussi beaucoup mon poids, ma façon de me tenir, mon maquillage, ma peau. je me rends compte aujourd'hui qu'elle avait le sentiment que sa véritable affection se témoignait par l'honnêteté, que c'était un cadeau qu'elle me faisait. Personne d'autre ne pouvait me dire ces choses, donc justement, c'était un témoignage de son affection. Et bien sûr, aujourd'hui, ça me manque. Et je me rends compte que personne ne sera jamais aussi franc, aussi honnête avec moi que ma mère l'était. Et maintenant, je doute de beaucoup de choses que je ne suis pas capable de voir de moi-même et qu'elle aurait pu voir et m'aider à améliorer. Et ça, ça ne fait pas du tout partie de la culture américaine, ce genre de critique assez brutale, d'honnêteté franche.
Je voudrais vous faire écouter une archive qui date de 1974. C'est la voix du grand romancier Albert Cohen. Il a écrit un livre sur sa mère et il parle du soin.
Il y a des choses comme ça qui m'accompagnent toute ma vie. Par exemple, comme elle me soignait. J'ai dit quelque part dans le livre de ma mère qu'elle ne me soignait pas par devoir. Elle ne me soignait même pas par affection. Parce que soigner par affection, il y a déjà un motif. Tandis qu'elle me soignait par besoin. Parce que, aurais-je été malade pendant 30 ans, ça aurait été ce besoin. Les autres êtres qui m'ont aimé beaucoup, ma fille par exemple, ou celle qui était ma femme à ce moment-là, ont leur moi, ont le besoin d'être tranquille à certains moments, ont un sommeil qu'il ne faut pas déranger, tandis que ma mère n'avait pas de moi. Elle avait un fils, c'était son moi.
Je vous vois opiner du chef pendant que Marguerite Capelle vous traduit la voix et les mots d'Albert Cohen. Michel Zonner, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que petit à petit, la maladie rongeant le corps de votre mère, vous vous mettez vous-même, jeune femme, à prendre soin d'elle. Et quelque chose du soin que vous avez décrit dans un premier temps, qui passait par la nourriture, notamment pour elle, eh bien s'inverse et vous vous mettez à prendre soin d'elle. Il y a un moment donné où vous racontez la façon dont elle fait la différence entre le soin que vous prenez d'elle et son mari, comment est-ce que vous lui mettez directement le bain de bouche au bord des lèvres et comment son mari lui tend. Il y a vraiment quelque chose dans la précision de ce soin-là. Comment avez-vous vécu cette expérience de presque d'inversion du soin?
J'avais un sentiment de devoir, mais c'est intéressant que vous parliez de cette différence parce que et c'est un mot coréen auquel je n'arrête pas de penser. C'est vraiment devenu le mot principal de ma vie cette année dernière. C'est un mot numchi en coréen qui définit la capacité à capter ce qui se passe dans une pièce et à anticiper les besoins de l'autre. Et j'ai le sentiment que ma mère m'a élevée avec cette capacité justement à anticiper les besoins des autres. Je crois que les femmes sont en général élevées comme ça, alors que les hommes, malheureusement, ne sont pas conditionnés de cette façon. Je n'arrête pas de répéter à mon mari que lui, il n'a pas justement cette capacité. Et j'ai vu mon père aux prises avec ça. Il voulait prendre soin d'elle, mais je crois qu'il n'avait pas les compétences pour le faire. Il n'avait pas été élevé comme ça. Ça venait aussi de sa famille, de ses origines, et puis parce que c'était un garçon. Et donc, je crois que j'ai appris à prendre soin de ma mère parce que c'était comme ça que elle avait pris soin de moi. Un des plus grands défis qui a donné naissance à ce livre, c'est que je me suis rendu compte que même si j'avais grandi avec un palais très coréen, je ne savais pas cuisiner comme une femme coréenne. En particulier, je ne savais pas comment cuisiner pour une femme coréenne malade ou âgée. Ce ne sont pas les plats nécessairement qu'on va trouver au restaurant ou ceux qu'on préfère. On pense souvent à des plats très épicés, avec des fruits de mer, avec des produits frais. Mais quand quelqu'un est malade, on ne peut pas manger tout ça. Donc c'est plutôt des porridge et des plats beaucoup plus neutres qui sont vraiment destinés aux patients et que je ne connaissais pas. Et quand cette femme qui joue un rôle dans le livre important est venue vivre avec nous et a pris en charge ce rôle, j'ai eu l'impression d'échouer. J'ai eu l'impression d'être incapable de tenir ce rôle bien précis pour ma mère. Je voulais justement cuisiner pour elle parce que je savais que c'était comment elle prenait soin de moi et m'aimait. Donc je crois qu'apprendre à cuisiner les plats coréens, c'était une manière, en fait, de déconstruire ce sentiment d'échec. Et je crois que je ne l'ai compris qu'en commençant à écrire le livre.
Vous parliez tout à l'heure de la très grande honnêteté de votre mère et de sa capacité à vous dire les choses de manière très concrète, de manière très frontale. C'est aussi ce que fait votre texte en abordant le corps malade, le corps qui subit des chimiothérapies. Vous décrivez évidemment la perte de cheveux, l'amaigrissement, le sommeil, mais aussi la manière dont elle attend minute après minute des antidouleurs. Il y a vraiment quelque chose de très, presque de très franc dans votre manière de dire, Michel Zonner, en fait, c'est ça, accompagner quelqu'un qui a un cancer et qui va mourir, sans perdre, il me semble, une forme d'élégance dans la façon dont vous le faites, peut-être de pudeur ou de respect. On va écouter un autre extrait.
Pour ne pas qu'on l'emporte en pyjama, mon père m'a demandé de lui choisir la tenue dans laquelle elle serait incinérée. Seule dans le dressing de ma mère, coincée contre les cintres, entre deux portants de chaque côté d'un petit couloir, accablée par le volume de sa collection de cardigans, de gilets, de chinos, de pantalons, trench, bombers, cabans et vestes en coton, j'ai sélectionné une jupe simple et noire, avec une bordure en dentelle qui tombait au niveau du genou, et un legging pour ses jambes devenues encore plus maigrichonnes, et que je savais qu'elle aurait voulu dissimuler, même s'il n'y aurait plus personne pour les regarder. J'ai ajouté un bonnet en laine douce et grise pour couvrir son crâne, un chemisier lâche et un blazer noir bien coupé. La rigidité cadavérique rendait extrêmement difficile de l'habiller. Ses bras étaient si raides que j'avais peur de les casser en les passant par les manches. Quand j'ai reposé son corps lourd, sa tête est tombée d'un coup sur l'oreiller et ses paupières se sont soulevées. Un cri d'angoisse m'a échappé. Mais ni Peter ni mon père n'ont osé entrer. J'ai continué à pousser ses membres inertes. Mon propre corps s'effondrait à côté d'elle pour se tordre de douleur, pleurer et hurler dans le matelas. Submergée par la détresse, j'ai dû faire une pause pour la laisser stasser. Je n'étais pas préparée à ça. Personne ne m'avait préparée à ça. Pourquoi fallait-il que je vive ça, que je garde ce souvenir ? On allait simplement l'emballer dans un sac, comme une poubelle que l'on sort. On allait juste la brûler.
Un extrait de votre texte, Michel Zonner, pleurer au supermarché, lu par Léa Weiss-Grus. C'était pas le passage le plus facile à lire, on le reconnaît, mais je voulais qu'on puisse lire cet extrait-là parce que il me semble qu'on y voit à la fois, bien sûr, le très grand tragique de ce que vous traversez, la très grande difficulté de ce que vous traversez. On y sent aussi votre jeunesse, votre impréparation. Mais moi, j'ai aussi lu votre capacité à rendre le grotesque de la situation. C'est-à-dire que votre mère est morte et vous devez lui choisir une tenue. C'est trop bizarre. De toute façon, vous la comparez à la fin à quelqu'un qu'on va brûler et qu'on va sortir comme une poubelle. Vous osez la comparaison jusqu'au bout parce qu'il me semble que vous traduisez aussi l'étrange, enfin, la bizarrerie aussi des moments auxquels vous êtes confronté, Michel Zonner.
Oui. Une de mes ambitions en écrivant ce livre était justement de réagir au fait que je m'étais sentie aussi mal préparée. Je n'avais jamais rien lu sur une telle expérience. Et quand je retravaillais le livre, que je révisais le livre, je remarquais que je parlais des adultes comme si ce n'était pas moi. C'est intéressant, à 25 ans, on est censé être adulte, mais je crois qu'on est beaucoup à 25 ans à ne pas se sentir encore tout à fait prêt pour ce rôle. Donc, quand je relisais ce livre, j'avais toujours cette question qui revenait. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait personne de qui savait ce que j'aurais dû faire. Pourquoi personne ne m'expliquait? Pourquoi est-ce que je n'avais jamais lu ou vu ce genre de scène dans les films? Quand les gens meurent, ils ferment les yeux, ils disparaissent, et puis plan de coupe et on passe à la suite. Donc ça me paraissait très important d'être très franche là-dessus, parce que j'aurais voulu avoir lu à l'époque quelque chose qui me prépare à ça. Je voulais quelque part avertir tout le monde et le crier sur tous les toits. C'est ça qui se passe.
On va écouter la voix de notre auditrice Alexia. Elle a enregistré une petite voice note après avoir lu votre texte il y a un an. Elle nous appelle de Tahiti. C'est peut-être pour ça qu'elle chuchote presque, parce qu'il faisait nuit à cette heure-là.
Bonjour le Book Club. Bonjour Michel Zonner. Je m'appelle Alexia et j'ai lu « Pleurer au supermarché » l'année dernière. Et c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée parce que je suis moi-même originaire d'une famille asiatique et j'ai pu m'identifier à plusieurs épisodes. Je pense notamment à tous les épisodes avec la nourriture qui en fait démontrait l'affection que votre mère vous portait, ou encore aux réactions colériques de votre mère lorsqu'en fait elle avait juste peur que quelque chose arrive à son enfant, à vous. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont vous aviez raconté tous ces événements, avec respect, avec pudeur, mais quand même avec franchise. Et je me posais la question de savoir si votre famille avait lu ce roman, et si oui, qu'est-ce qu'elle en avait pensé. Merci beaucoup pour votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Alexia, pour cette lecture et pour ce message qu'on transmet tout de suite à Michel Zonner. Est-ce que vous avez fait lire? Est-ce que vous avez eu des réactions de votre entourage?
My mother's older sister, Nami,
oui, Nami, la sœur aînée de ma mère qui joue un rôle important dans le livre, l'a lu il y a 2 ans quand il y a eu une traduction en coréen. Je crois que c'était surtout sa réaction qui m'inquiétait. Mais sa réaction a été très gentille, très bienveillante. Elle m'a dit que je m'étais trompée sur quelques points, mais dans l'ensemble, je crois que ça nous a plutôt rapprochés. Parce que elle a passé toute sa vie, elle fait du doublage, et donc elle a passé toute sa vie à être justement artiste. Et ma mère avait passé son temps à me répéter que avoir des ambitions artistiques n'était pas quelque chose de réalisable. Mais parce que le livre a fonctionné, aujourd'hui, ma tante aime bien dire qu'on fait partie d'une lignée d'artistes et que mon choix est très logique. Donc finalement, c'est très asiatique aussi d'avoir attendu mon succès pour me célébrer en tant qu'artiste. Mon père prétend qu'il a lu le livre. J'ai encore un peu de mal à y croire, pour être franche. Il y a une chose qui ne lui a pas plu, c'est que je l'ai qualifié de vendeur de voitures d'occasion. Et il était très fâché parce qu'il vendait des voitures neuves, et pour lui, c'était très important. Pour moi, ce n'était pas du tout une manière de le dévaluer. Valoriser, en fait. Au contraire, pour moi, je trouvais ça très honorable, cette idée de mettre beaucoup de passion dans ce métier modeste. Mais je crois que le seul changement qui a été fait entre la première édition et le poche dans la version anglaise, c'est que maintenant, on a remplacé les voitures d'occasion par des voitures neuves.
De quoi aviez-vous peur? Vous disiez, j'étais craintive quand ma tante, la sœur de ma mère, a lu le livre. Vous aviez peur de quoi, Michel Zonner?
I think because Korean people are quite withholding and private.
Les Coréens ont tendance à être très pudiques et discrets, en particulier sur les affaires familiales. J'avais peur qu'elle trouve que j'avais exposé la famille d'une manière qui la mettait mal à l'aise.
The most concerned, I think, in general about the Korean.
Je pense que ce qui m'inquiétait surtout, c'était le retour que j'aurais des Coréens sur ce livre. Mais heureusement, là-bas aussi, il a eu un bon accueil.
J'aimerais qu'on écoute pour terminer la voix d'une autre grande autrice. Elle s'appelle Hélène Cixous. Elle parle du rapport aussi entre la nourriture, le lien d'amour et l'écriture.
C'est un gâteau qui est beaucoup plus qu'un gâteau. Ce gâteau est aussi un texte. Mais ça, je ne l'ai découvert que progressivement, parce que j'ai fait la connaissance de ce gâteau quand j'étais très petite, que j'aimais beaucoup être dans la cuisine, Et je suivais les actions de ma grand-mère allemande, qui à ce moment-là dirigeait la cuisine et était en même temps une excellente pâtissière. J'aimais plus que tout un gâteau qui s'appelle le Gefüllterkuchen. Et ma petite grand-mère, qui était petite mais qui avait une force de création, je la voyais transformer quelque chose de chaotique en pâte lisse. Et ensuite, il y avait une étape que je trouvais absolument merveilleuse. On recouvrait la boule de pâte d'un linge et on la mettait dans le lit. On le met sous un édredon parce qu'il faut que ça lève. Et alors, on attendait cette chose qui devait lever, donc comme une chose qui est en train d'être créée, une véritable grossesse, quoi. Ça gonfle pendant la nuit et le matin, on regarde. Et ma grand-mère avait le coup de main, certainement, puisque la pâte avait énormément levé. Et pourquoi ça ne levait pas et pourquoi ça levait, c'est le mystère. Donc il fallait une formule magique. La recette est très importante. Je suivais toutes les étapes, tous les chapitres du livre de ce gâteau, qui est en fait très long à fabriquer. Donc c'était un gâteau rare. Et je me suis toujours dit, mais en fait l'histoire du gâteau, c'est l'histoire d'un texte avec tous ses étages. Et il faut qu'il soit divin à la langue, qu'il ait un goût raffiné multiple, qu'il vous envoie des messages divers. Et chaque fois, donc, ça convoque. Ça convoque le goûter, le suave, à parler et à goûter. Et d'ailleurs, les livres, comme vous le savez, comme les gâteaux, ça se goûte et ça se dévore. Et chaque fois qu'on me parle de traces, justement, sur la langue, si je peux dire, je pense à un certain nombre de pâtisseries de ma grand-mère. Parce que pour moi, elles étaient toutes imprégnées de messages qui allaient plus loin que la pâtisserie.
Magnifique archive d'Hélène Cixous en 2019 au micro de Natacha Triou. Michel Zoner, si on doit rapidement conclure cet entretien et vous demander quelle est la comparaison qu'on peut faire entre la cuisine et la littérature et l'écriture.
I guess it's a simple necessity, really.
Je crois que c'est une question de nécessité, tout simplement.
I mean, in my book, I talk a lot about fermentation.
Dans mon livre, je parle beaucoup de la fermentation et du deuil, du chagrin. Je crois que une des choses que je préfère dans ce livre, c'est l'idée d'avoir préservé quelque chose de la mort, de lui avoir redonné vie. C'est une façon de conserver quelque chose. Et la fermentation en particulier, c'est une façon de conserver la vie en recréant quelque chose. Et ce livre aussi est une façon de conserver la vie de ma mère. Donc je pense que ce livre est une forme de fermentation. Elle continue à vivre sous une forme différente.
Et le Book Club continue aussi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et on se rend immédiatement en Afrique du Sud pour la rubrique Lecture sans frontières avec vous, Claire Bargelès. Bonjour Claire.
Bonjour Marie.
Cette année marque les 20 ans de la mort de l'écrivain K.C.L.O. Dicker, qui s'est donné la mort en 2005 à 30 ans, qui a laissé donc le monde littéraire sud-africain orphelin après une carrière fulgurante. Cet auteur noir garde une part de mystère et il aura, par ses quelques écrits, marqué vraiment la période post-apartheid, Claire.
En effet, même s'il ne laisse derrière lui que trois romans, ses textes auront constitué un tournant pour les générations d'écrivains qui lui ont succédé. Et de son vivant, déjà, il aura connu le succès. Né à Soweto, K.C.L.O. Dicker a grandi au sein d'une famille de la classe moyenne. Il a terminé son lycée en Angleterre et après une année en France, il a poursuivi des études de journalisme en Afrique du Sud. Et c'est dans la ville du Cap qu'il a trouvé sa voie d'écrivain, ville des inégalités aux réalités loin des images de cartes postales.
Et c'est notamment là-bas, qu'il explique avoir passé trois semaines avec un groupe d'enfants des rues à la recherche d'un de leurs amis. Et c'est une expérience qui l'a vraiment marqué et qui a marqué son entrée en littérature.
Oui, avec ce livre coup de poing, 13 cents, publié en 2000, et où on suit le parcours d'un jeune garçon de 12 ans orphelin qui se prostitue pour survivre. Un texte donc très dur, écrit du point de vue de cet enfant noir aux yeux bleus, dans une langue qui mélange l'anglais, l'afrikaans, le soto, le kosa, ce qui fait écho aux questions d'identité et de métissage que le récit soulève. La brutalité du quotidien de cet enfant, l'emprise des gangs, la violence des scènes de sexe cru, tout ça est un petit peu véhicule aussi par ses relations avec certains personnages et son rapport à la nature, à l'océan, à l'eau, au feu et à la montagne qui jouent tous un rôle clé dans son parcours. Tres Sons vaudra à Cassello Dacre de remporter le prix littéraire du Commonwealth pour l'Afrique.
Et puis c'est le passage à l'âge adulte avec son second ouvrage, quelques 500 pages où le personnage principal, cette fois-ci, est un étudiant de 23 ans.
Absolument, où on retrouve toujours les thèmes de l'identité, de la question raciale retravaillée, mais aussi une réflexion autour de l'homosexualité, de la santé mentale, le tout toujours avec nuance. La sourde violence des rêves a été publiée 2 ans plus tard, en 2002. Déjà rien que le titre est magnifique. L'histoire se déroule toujours au Cap, mais cette fois-ci avec une multiplicité de points de vue pour raconter l'histoire de Tsepo, qui se retrouve en asile psychiatrique après avoir fumé trop de cannabis. Alors on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec la trajectoire de Cassello Dacre, qui souffrait lui aussi de troubles mentaux et s'est suicidé après avoir arrêté, selon des témoignages, la prise de médicaments. Son personnage, lui, finira par sortir de l'asile et se tourner vers un salon de massage pour hommes, où il trouvera un monde fait de fraternité. Et le tout est raconté dans une écriture lyrique, parfois complètement hallucinée, qui se dessinait déjà dans son premier roman, et qui sera récompensée par le prix local Herman Charles Bosman. Enfin, un dernier ouvrage, publié à titre posthume, vient compléter son œuvre, The Hidden Star, soit l'étoile cachée, qui n'a pas encore été traduit en français. Ce livre est très différent puisqu'il s'agit plutôt d'un conte pour enfants avec une fillette qui trouve une pierre magique et découvre ses propres pouvoirs.
Et malgré sa disparition précoce, ses écrits ont inspiré, Claire, toute une génération d'auteurs sud-africains.
Tout à fait, il aura ouvert la voie à un ensemble d'auteurs noirs de sa génération, des auteurs qui cherchent leur place après la fin de l'apartheid. Dacre lui-même avait 16 ans lorsque Nelson Mandela a été libéré, ce qui explique sans doute cette écriture sans tabou qui examine le manque de repères dans ce nouveau monde qui s'ouvre, un monde très éloigné de l'idée rêvée et optimiste d'une nation arc-en-ciel. Et il a disparu un mois après un autre écrivain au parcours très similaire, une sorte de double littéraire, Passoine Mpé, décédé à 34 ans de cause non expliquée, après avoir laissé un roman marquant sur la dure vie urbaine de Johannesburg. Et donc on peut sentir, sous la plume d'autres écrivains contemporains, comme Fred Kumalo ou Nim Klongo, l'influence et l'empreinte laissée par ces deux étoiles filantes littéraires.
Un très grand merci Claire Bargelès. On peut vous réécouter, peut-être trouver les références des livres que vous avez cités sur franceculture.fr, Lecture sans frontières. Il y a beaucoup de musique dans votre livre, Michel Zonner, Pleurer au supermarché. Il y a un petit chapitre qu'on a choisi pour terminer. Après le concert, Yon et Coqui nous ont invités dans un bar à Vinyle pour fêter ça. On a bu de la casse fraîche dans des verres miniatures et sifflé bouteille après bouteille. Quand le bar s'est vidé, ils ont passé une sorte de version coréenne de Phil Spector qui produisait des tubes sirupeux et des riffs psychédéliques pour les girls bands de l'époque. C'était un morceau folk qui s'étirait sur 6 minutes, commençait par un picking sur guitare acoustique et prenait ensuite de l'ampleur avec des accords mélancoliques. On l'a écouté en silence. Aucun de nous ne comprenait les paroles. Mais la musique était captivante, intemporelle. Et nous étions bourrés, graves, émus. Michel Zonner d'avoir été ici avec nous. On a parlé de Pleurer au supermarché dans sa publication Poche aux éditions Bourgois. La traduction française est assurée par Laura Bourgeois dans le texte et ici à l'antenne par Marguerite Capelle. Merci beaucoup. Marguerite, au son, c'était Dali Yaha, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, notamment à Noé Margas et Léa Weiss-Cruss.